l'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Ah, merci.
Nous ne pouvions pas commencer une émission que nous allons consacrer à la Queen of Soul, à Aretha Franklin, sans écouter ce classique de 1967 emprunté à Otis Redding. Il s'agit évidemment de Respect, extrait de l'album I Never Loved a Man the Way I Love You, sur le label Atlantic Records, qui symbolise peut-être la période faste de cette icône de l'art vocal dont nous allons parler avec Frédéric Adrien. Soyez le bienvenu.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une biographie parue aux éditions Le Mot et le Reste qui relate avec précision l'épopée Aretha Franklin. Vous n'êtes évidemment pas le premier à vous pencher sur cette grande figure de la soul music et du gospel. Quelle était votre intention en publiant cet ouvrage ?
Alors l'idée, c'était, comme je l'ai fait avec certains des bouquins précédents, de refaire toute l'histoire en partant des sources originales, c'est-à-dire en me replongeant dans les journaux d'époque pour ne pas donner mon Aretha Franklin, comme ont pu le faire peut-être certains collègues, mais d'essayer de recouvrir l'ensemble des dimensions de sa personne, y compris ses contradictions, puisque certains de mes collègues en anglais ou en français ont un peu tendance à aller chercher la direction Queen of Soul dans l'idée qu'ils en ont. Moi, je montre aussi que musicalement, artistiquement, personnellement, c'est plus compliqué. Ce n'est pas une trajectoire linéaire.
Que reste-t-il à dire d'Aretha Franklin ? On a l'impression que l'on connaît parfaitement sa destinée aujourd'hui.
Alors Aretha Franklin, vous disiez Queen of Soul, c'est la réalité. Elle-même, quand on l'a interrogée à la fin de sa vie sur qui serait la Queen of Soul après elle, sa réponse était Aretha. C'est la Queen of Soul originelle, c'est la Queen of Soul quasiment éternelle. Et il y a beaucoup de choses à raconter sur elle. D'abord parce qu'elle a fait plus que les tubes qu'on connaît habituellement. Il y a beaucoup de musique, je pense qu'on va en entendre quelques classiques. Et son œuvre et sa personne sont vraiment devenues iconiques. Donc il y a vraiment la construction d'un personnage au-delà de la personne existante.
Vous êtes déjà l'auteur de plusieurs biographies dédiées à Otis Redding, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Ray Charles, Nina Simone. Pourquoi ces artistes vous inspirent tant ?
D'abord parce que c'est de la musique que j'aime beaucoup. Il y a quand même le vrai plaisir à se pencher là-dessus. Et puis, c'est des artistes qui méritent un traitement un peu historique. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas des tubes, des classiques. Enfin, en effet, on n'a pas besoin de décrire la musique. Enfin, tout vient tout seul. Et je trouve que leur démarche, leur parcours, leur démarche créative, c'est la construction artistique. C'est-à-dire, c'est très facile de dire, sur tous ces gens-là, il y en a plein dont le papa était pasteur, c'est très facile de dire, c'est des enfants de pasteur, c'est normal qu'ils fassent de la musique, qu'ils aient le sens de la musique. C'est pas vrai, c'est une construction artistique et c'est ça que j'essaye de porter.
Il y a dans chacune de ces vies africaines-américaines un activisme réel. Est-ce que la dimension politique l'emporte sur l'engagement artistique dans une destinée comme celle d'Aretha Franklin, par exemple ?
Alors, l'engagement politique, sociologique, communautaire, il est très important. Mais non, c'est l'œuvre qui domine tout. D'abord parce que c'est quelqu'un qui a toujours été passionné par son œuvre personnelle. Je ne suis pas sûr que ce soit une grande fan de musique. Ce serait vraiment quelque chose qui aurait pu lui être demandé, mais je ne suis pas sûr qu'elle aurait répondu. Je ne suis pas sûr que ce soit une grande fan de musique, à part le gospel de son enfance à laquelle elle est très très attachée. Elle a toujours souhaité faire la musique de son époque. Elle a toujours souhaité avoir des tubes, avoir du succès. Par contre, l'importance de son œuvre, elle l'a toujours revendiquée. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a toujours voulu avoir du succès, pour toujours être importante.
Nous avons ouvert avec Respect, ce qui n'est pas anodin de notre part, puisque ce titre est une prise de position de la Queen of Soul.
On peut l'interpréter de toutes sortes de façons. La version originale d'Otis Redding, c'est une chanson légère, c'est un type qui raconte qu'il rentre après sa journée de boulot et qui veut qu'il soit respecté chez lui. C'est pas obligatoirement la chanson la plus féministe qui soit dans sa première version. Et en effet, mais comme elle le fait régulièrement, puisqu'elle écrit mais elle reprend beaucoup, elle réinvente les chansons, elle apporte sa propre personnalité et c'est très facile de l'interpréter comme un hymne féministe.
Alors remontons le cours de l'histoire. Vous dites clairement dans votre livre que son père, pasteur C.L. Franklin, Clarence Lavone Franklin, personnage influent dans la communauté noire de l'époque, guide les premiers pas de sa fille dans l'univers de la musique. Est-il un personnage fréquentable? Comment le décririez-vous? Est-ce que vous diriez que c'est un homme d'église libertaire?
C'est un drôle de bonhomme. Il n'y a aucune raison de remettre en cause la réalité de sa foi, de ses engagements, etc. Mais c'est un monsieur qui aime beaucoup les belles voitures, les beaux vêtements, les très belles femmes. Son fils disait qu'il avait toujours eu du mal à respecter le commandement sur le fait de ne pas convoiter la femme du voisin. C'est un personnage qui, à part, c'est une vedette de l'église afro-américaine. Alors nous, on l'imagine assez mal, mais c'est quelqu'un qui vend des disques de sermons, qui fait des tournées très très tôt. Il est très impliqué dans le mouvement des droits civiques très tôt. Il rencontre très tôt Martin Luther King avant même qu'il soit connu. Mais il est assez vite mis de côté parce que les costumes sont un peu trop voyants, le style est un peu trop spectaculaire. Donc c'est un personnage qui existe beaucoup dans l'église afro-américaine, mais c'est un personnage qui est un petit peu controversé.
Les premiers enregistrements d'Aretha Franklin sont publiés sur le label Columbia.
Alors il y a quelques petits disques qui sortent avant, en particulier chez Chess, qui sont des enregistrements gospel captés dans l'église de son père d'ailleurs.
Qui la pousse dans les bras de John Hammond, le producteur?
Alors c'est elle-même, bien entendu. C'est elle qui à un moment décide que le monde du gospel qu'elle découvre quand elle a 12-13 ans, elle commence très très tôt à tourner avec son père, c'est pas mal, mais elle est très amie avec Sam Cooke, dont elle a vu qu'il avait fait la bascule du gospel au monde séculier et que ça avait été intéressant artistiquement mais aussi commercialement. Il n'y a pas de naïveté non plus dans cette démarche-là. Donc c'est elle qui dit à un moment à son père « j'irai bien dans le monde du séculier ». Son père l'accompagne, utilise ses contacts pour la faire rencontrer les gens de l'industrie musicale.
Le fruit de ses premières séances de studio paraîtra en février 1961. Aretha Franklin n'a pas 20 ans, mais sa voix est déjà bien affirmée et particulièrement frissonnante. Without a word of warning, walked in this morning and circled around my lonely room. I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called and said, we're through. Yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing the blues. Today I sing the blues. Aretha Franklin démontre qu'elle peut tout chanter car elle vient de l'église et pourtant elle chante le blues, une musique profane. Frédéric Adrian, on a dit que les disques édités par Columbia étaient trop lisses, trop produits, ne révélaient pas toute l'étendue de ses facultés vocales. Qu'en pensez-vous? Quand on écoute Today I Sing the Blues, la force expressive de sa voix est déjà là, non?
Oui, tout à fait. Les disques Columbia, ils pâlissent par comparaison avec ce qui vient ensuite. On en parlera sans doute, j'imagine. Les disques atlantiques qui viennent ensuite sont vraiment extraordinaires. Plongez-vous dans les années Columbia, on trouve ça très très facilement. Vous allez faire des découvertes fantastiques.
Et puis, il ne faut pas oublier qu'elle avait 18 ans.
Oui, tout à fait. On entend sa formation. En effet, il y a des choix artistiques qui sont discutables. En particulier, elle a un goût pour la chanson de comédie musicale à l'époque qui n'a pas toujours bien vieilli, on va dire. Mais elle, en effet, elle peut tout chanter. Et quand l'accompagnement est au niveau, ce qui est l'un des autres problèmes sur certains de ses disques, elle est capable d'aller chercher le sens, la signification, l'intensité de n'importe quelle chanson.
Est-ce que l'intention des producteurs de la présenter comme une chanteuse de jazz, comme une diva du jazz, fut une erreur à l'époque ?
D'abord, c'est Columbia, c'est une très grosse major qui n'est pas du tout en contact avec le son de la rue de l'époque. Elles vont pas énormément de disques, mais elle fait beaucoup de concerts. Elle est très populaire sur le circuit du live. Elle aurait pu faire toute sa carrière dans ce registre-là.
Est-ce que son hommage à l'une de ses grandes sœurs, Dinah Washington, en 1964, est un album recommandable ?
C'est probablement le meilleur de cette époque-là. D'abord parce que le répertoire est sans doute plus proche du goût du grand public, de ce qu'on aime chez elle aujourd'hui. Et puis, en effet, c'est un très, très bon disque. C'est un répertoire qu'elle connaît par cœur, puisqu'elle a croisé Dinah Washington quand elle était plus jeune. Il y a très clairement une influence chez elle de cette musique-là. Mais oui, si je devais choisir un album d'Aretha de la période Columbia, c'est par celui-là que je commencerai.
Page 59 de votre livre, vous dites que ce disque fut un échec commercial. Pourquoi ?
Assez vite, elle n'est plus la priorité de Columbia. Au début, quand ils la découvrent, ils sont très actifs pour la vendre. Et puis, en fait, elle n'est pas très facile à vivre, Aretha. Enfin, ce n'est pas obligatoirement un personnage intégralement sympathique à chaque étape. Donc, elle râle, elle proteste. Donc, je ne suis pas sûr que Columbia fasse la promotion qu'il devrait faire sur ces disques-là. À un moment ou à un autre, je pense qu'elle les fatigue un petit peu.
Déjà, à cette époque, c'est une forte tête.
Aretha, elle a toujours eu une personne à cœur, c'est elle-même. Elle s'est toujours défendue, elle a toujours reproché aux autres de la martyriser. Enfin, elle est souvent dans la plainte sur comment les labels me traitent, pourquoi je ne suis pas autant payée que les autres. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment constant tout au long de sa carrière. Elle a très fortement conscience de sa propre grandeur, à juste titre. Elle est vraiment extraordinaire et elle veut que le monde ait conscience de tout ça et la traite en fonction.
Bien, nous allons rendre hommage et justice à cet album. Voici This Bitter Earth, Aretha Franklin.
Bitter earth. What fruited bears? What good is love? Wants to share. And if my life, my life is like the dust, that hides the glory. Tell me, what good am I? Heaven, 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 heaven only knows. Ooh, this bitter. Well, I found out it can be.
This Bitter Earth, Aretha Franklin en 1964 sur le label Columbia Records dans le rôle d'une diva du jazz. Frédéric Adrian, à quel moment prend-elle conscience que cette direction musicale n'est pas vraiment la sienne finalement ?
Elle en prend conscience quand elle voit combien les disques soul se vendent et combien elle est cantonnée dans un public très limité. Elle essaye de faire quelques petits trucs R&B de l'époque. Columbia sait pas faire ça, ils savent pas faire ça, ils savent pas vendre ça, et donc elle voit bien qu'elle va dans une direction artistique qui est une direction artistique un peu datée, qui marche, qui a son public, mais son public c'est le public des clubs et des cabarets qui sont des gens un petit peu âgés, et elle a envie de vendre des disques au grand public dans son ensemble, et en particulier ceux qui sont prescripteurs là-dessus, c'est les ados.
En 1967, c'est l'année du changement, elle signe chez Atlantic Records, elle devient aux yeux du public une artiste soul et va aligner tube sur tube. À quoi est dû ce succès selon vous ? À l'effervescence sociale de l'époque, à son entourage, à sa maturité déjà d'artiste aguerri ?
Alors, c'est la rencontre très très forte entre elle et le producteur de l'époque qui est Jerry Wexler. Jerry Wexler, il raconte toujours qu'il la suivait depuis un certain temps et qu'il avait une conscience assez élevée du fait qu'elle pouvait faire autre chose, que Columbia n'exploitait pas ses talents de la façon dont lui l'aurait fait. Et donc, dès que son contrat s'est terminé avec Columbia, il a été voir son patron à Atlantique. Il a dit, il faut qu'on signe cette dame, je sais quoi en faire. Et de fait, il sait quoi en faire, puisque sa première idée, c'est de l'emmener dans les studios de Memphis, dans le sud des États-Unis. Alors, ça ne se passe pas aussi bien que prévu, donc ils sont obligés de revenir à New York, mais avec les musiciens du sud. Et ce qui se passe, c'est cette rencontre avec les musiciens sudistes, qui ne sont pas tous afro-américains, d'ailleurs, qui sont plutôt majoritairement pas afro-américains à l'époque, mais qui ont une approche musicale extrêmement différente. Quand elle enregistre dans les studios de Columbia, elle travaille avec des ingénieurs du son qui sont encore en blues, parce que c'est des ingénieurs, donc ils sont en train de travailler avec des musiciens qui jouent sur des partitions précises, un répertoire qui est écrit par des gens spécialement pour elle, qui est arrangé, etc. Quand elle arrive dans les studios de Muscle Shoals, tout début 1967, elle s'assoit au piano, elle joue les chansons qu'elle va enregistrer, et les musiciens du studio, qui sont des gens très habitués, qui ont déjà travaillé avec Wilson Pickett, avec des gens comme ça, construisent quelque chose autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle est vraiment son chant, sa musique et son piano, qui est très important dans l'équation, sont le cœur de la musique qui s'invente là, et ils viennent juste renforcer et compléter ce qu'elle est en train de faire.
Il est très difficile de choisir un classique de cette époque qui va de 1967 à 1979. Quel est pour vous l'album ultime paru chez Atlantic Records et pourquoi ?
Alors moi, j'ai une grande passion pour son album gospel qui s'appelle Amazing Grace, qui est au milieu de la période. C'est 1972. C'est un peu le dernier très grand disque de cette période-là parce que c'est un album qui est enregistré en public, même s'il y a un peu de bricolage en studio après, mais ça, c'est classique à l'époque. On dit toujours que c'est le retour au gospel, mais c'est un peu plus compliqué que ça puisqu'elle reste accompagnée par des musiciens soul, elle combine. Pour moi, c'est l'album dans lequel sa voix est la plus intense, la plus sincère, même si ce n'est pas ses chansons, même si elle ne chante pas obligatoirement ses chansons. C'est là où je trouve qu'il y a le plus de puissance émotionnelle, parce que ces chansons-là, elles représentent quelque chose pour elle.
Le live au Fillmore West de San Francisco en 1971 est à mes yeux incontournable, notamment pour le duo avec Ray Charles, qui a bien failli ne jamais être édité d'ailleurs.
Alors, c'est un duo semi-impromptu, c'est-à-dire qu'elle annonce l'arrivée de Ray Charles, elle dit qu'elle vient de le trouver, c'est pas complètement vrai. Par contre, il était absolument pas prévu qu'ils chantent ensemble, puisqu'elle le fait venir sur un morceau qui s'appelle Spirit in the Dark, et très clairement, Ray Charles ne connaît pas le morceau, et donc ils se retrouvent tous les deux sur scène, d'abord elle au piano, ensuite elle lui passe le piano, et ils chantent ensemble, et ils improvisent autour du thème de Spirit in the Dark. D'ailleurs, Ray Charles, une bonne partie du morceau, répète Spirit in the Dark sans dire autre chose, parce qu'il connaît clairement pas les paroles. Évidemment, c'est un moment extraordinaire. On peut l'entendre en entier sur des versions complètes du concert, et on peut le voir en cherchant sur YouTube, puisque c'est très mal filmé, mais on peut les voir faire quasiment un quart d'heure d'improvisation. Mais Ray Charles ne voulait pas publier ça, parce qu'il sait qu'il bafouille, il sait qu'il ne connaît pas la chanson, et ça lui déplaît très fortement. Il a l'impression d'être, il a l'impression que c'est nul, il a l'impression que ce n'est pas réussi. Et c'est Jerry Wexler et Ahmet Ertegun, donc les patrons d'Atlantique, qui réussissent à le convaincre, alors sans doute en échange d'un petit chèque. Hein, on parle de Ray Charles quand même, mais en lui préparant un mix qui le valorise beaucoup, en réduisant la longue improvisation à environ 4 minutes.
Si nous écoutions Spirit in the Dark, Aretha Franklin et Ray Charles le 7 mars 1971, c'était un dimanche. I discovered Ray Charles. Thank you. Spirit in the Dark, la rencontre magique entre Ray Charles et Aretha Franklin à San Francisco en 1971. Je vais être sévère avec vous, Frédéric Adrian. À aucun moment, vous ne prenez parti, vous vous contentez de narrer les faits. Est-ce que conter l'histoire d'Aretha Franklin ne vous impose pas de prendre position?
Alors, mon avis sur le sujet se lit sans que je mette les mots dessus, enfin j'espère en tout cas. C'est quand même très clairement mon objectif dans ce livre-là, comme dans les autres, de ne pas imposer ma lecture d'Aretha Franklin. C'est pas mon Aretha Franklin que je propose, comme c'était pas ma Nina Simone, mais c'est, alors, l'objectivité n'est pas de ce monde, je suis bien d'accord, mais c'est d'essayer de raconter l'histoire de la façon la plus complète, la plus exhaustive et sans faire de choix. Évidemment, on priorise les sujets, mais j'essaye de garder la part contradictoire. Je ne raconte pas, par exemple, spécifiquement Aretha Franklin engagée, Aretha Franklin féministe, Aretha Franklin religieuse. Je suppose, j'espère, que l'ensemble de ces aspects se trouvent en filigrane dans l'histoire et je laisse les lecteurs se faire leur idée, se faire leur portrait. D'ailleurs, ça m'intéresse, si vous me croisez, venez me voir et dites-moi quelle Aretha vous avez lu dans mon livre. Un des objectifs que j'ai, c'est de ne pas être plus malin que les gens qui ont fait la musique à l'époque. C'est-à-dire que c'est très facile aujourd'hui de dire bah, « John Hammond, il n'a rien compris, il aurait dû lui faire faire de la soul immédiatement ». Ce n'est pas comme ça que c'est vécu à l'époque, c'est notre réflexion a posteriori et j'essaye de ne pas être dans cette démarche de jugement.
Je vous pose cette question car j'ai personnellement toujours considéré que la période chez Arista Records à partir des années 80 est beaucoup moins intéressante artistiquement parlant. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je le pense aussi. C'est clairement pas mon goût, mais c'est aussi important pour elle. D'ailleurs, quand on regarde les programmes de ses concerts à la fin de sa carrière, elle chante autant les tubes Arista que les tubes Atlantique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas ce rapport à la musique où elle dirait « Mais moi, mes grandes années, c'est les années Atlantique ». À aucun moment, à chaque nouveau disque, alors elle ment un petit peu pour la promotion, je pense qu'elle n'est pas complètement naïve non plus, mais à chaque nouveau disque, elle s'implique à fond. C'est nous qui pouvons questionner certains de ses choix artistiques, mais sa réflexion à elle, elle ne partage pas nos critères à nous.
Parmi ses derniers albums chez Arista, il y a So Damn Happy en 2003. Est-ce qu'il ferait partie des albums que vous sauveriez de cette époque moins frissonnante ?
Oui, clairement, c'est un très très beau disque. C'est sa capacité à être toujours contemporaine, qui est, je pense, vraiment le fil de sa musique. À aucun moment, elle n'a pas fait, par exemple, un disque de réenregistrement de ses vieilles chansons, elle n'a pas fait ces choses-là. À aucun moment, elle n'a voulu être un artiste au circuit de la nostalgie, même si, bien sûr, les gens venaient en partie la voir pour ses vieux tubes. Mais elle a toujours voulu chanter de nouvelles chansons et pousser de nouvelles chansons en lien avec l'air du temps.
Nous avons de notre côté décidé d'accorder un sursis à cet album et à cette chanson, « The Only Thing Missing ».
Opened my window, heard a sparrow say, positive thoughts are running through my mind. Nothing is wrong, feeling real strong, 'cause a new day is gone.
Sun is shining, no clouds in view. Love is our holiness, the world's brand new. Everybody's smiling, summer's coming through.
The Only Thing Missing, Aretha Franklin en 2003. Frédéric Adrian, nous sommes évidemment obligés de survoler l'épopée Aretha Franklin tant sa carrière est immense. Qu'aimeriez-vous que l'on retienne de sa destinée humaine et artistique ?
Le fait que c'est vraiment une personne qui a vécu ses propres choix. Elle a fait des choix artistiques forts et des choix personnels forts. Je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui était très heureux tout au long de sa vie. Elle a sacrifié en bonne partie sa vie personnelle à ce qu'elle percevait comme étant son destin d'artiste et de créatrice. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a fait des choix, qui a imposé son style, quitte en effet, on disait tout à l'heure, à être des fois pas complètement sympathique sur la fin de sa vie, où il y a toute une série d'interviews où elle désingue la concurrence, où elle critique d'autres artistes qui ne méritaient pas de se faire taper dessus de cette façon-là. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a fait les choses à sa façon, à chaque étape.
Vous terminez votre livre par ces mots. La musique d'Aretha Franklin, souvent utilisée dans des publicités, des séries et des films régulièrement reprises, n'a rien perdu de sa fraîcheur, de son intensité, ni de sa capacité toujours renouvelée à stupéfier l'auditeur, qu'il la découvre ou qu'il l'ait déjà explorée. En 2011, à l'animatrice Wendy Williams, qui lui demandait qui pourrait lui succéder au titre de Queen of Soul, Aretha Franklin répond en un seul mot, Aretha. Ça veut dire qu'elle est unique, elle n'a pas... d'héritière, pas même Beyoncé ou Lady Gaga?
Je pense qu'elle n'a pas d'héritière au sens strict du terme, parce que jusqu'ici, personne n'a fait ce parcours-là qui commence chez Columbia et qui se finit avec Mary J. Blige 40, 50 ans après. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait fait ce parcours-là, sauf dans le jazz. Justement, quelqu'un comme Miles Davis, quelqu'un comme Ray Charles aussi qui a traversé les époques, mais ils sont pas très très nombreux.
Merci beaucoup Frédéric Adrian d'avoir revitalisé avec nous son répertoire le temps d'une émission. Que diriez-vous de nous quitter avec Think dans la version cinématographique des Blues Brothers?
Les Blues Brothers, excellente idée.
Think, Aretha Franklin en tenancière d'un bar-restaurant dans le film The Blues Brothers de John Landis en 1980. Frédéric Adrian, après Otis Redding, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Ray Charles, Nina Simone, Aretha Franklin, à quelle grande figure de l'épopée des musiques noires allez-vous consacrer un nouvel ouvrage?
Alors, j'ai commencé à travailler sur un James Brown avec l'objectif qu'il paraisse pour les 20 ans de son décès, donc en 2026.
En tout cas, je rappelle que votre biographie Aretha Franklin est disponible aux éditions Le Mot et le Reste et sera du meilleur effet au pied du sapin de Noël.
Rien à ajouter.
Merci à vous Frédéric Adrian.
Merci bien.
La semaine prochaine, nous accueillerons Raoul Midon, ce fameux guitariste et chanteur américain nous parlera de son nouvel album Lost and Found que nous vous recommandons chaudement. La Queen of Soul de la régie finale, Nathalie Laporte, réalisait cette émission. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.